France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Invention française, lieu plusieurs fois inventé, héritier des rôtissiers, des traiteurs, de la table d'hôte, des bouillons, mais aussi bien des habitudes aristocratiques de l'Ancien Régime, le restaurant. Voici, grâce à De Bouche à Oreille, l'histoire des restaurants, et même celle de l'addition qui sera nommée le quart d'heure de Rabelais. Une histoire du restaurant, donc, en 4 épisodes, dont voici les deux premiers, Naissance et La Bouche va toujours.
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire.
Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table !
Aujourd'hui, histoire du restaurant. Premier temps, naissance.
Les tables d'hôtes sont insupportables aux étrangers. Mais ils n'en ont pas d'autres. Il faut manger au milieu de 12 inconnus après avoir tourné un couvert. Celui qui est doué d'une politesse timide ne peut venir à bout de dîner pour son argent. Malheur à l'homme lent à mâcher ses morceaux. Placé entre ses avides et lestes cormorants, il jeûnera pendant le repas. En vain, il demandera sa vie aux valets qui servent. La table sera nette avant qu'il ait pu se faire servir. Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris.
Quatre temps pour cette histoire du restaurant, du XVIIIe siècle avant la Révolution à la fin du XIXe siècle. D'abord naissance, puis le mythe révolutionnaire avec le Palais Royal, l'escapade vers les boulevards et enfin les cuisines populaires du bouillon au bistrot. Nos aïeux mangeaient au cabaret, nos pères allaient chez le traiteur, nous dirions chez le restaurateur, écrivait Eugène Briffaut, chroniqueur gastronomique dans Paris à table. C'était en 1846, au moment de la montée en puissance des tables parisiennes et de la jouissance gastronomique des classes aisées. Le restaurant est à la fois héritier de la table d'hôte, de l'établissement appelé bouillon et aussi des habitudes aristocratiques des grandes maisons de l'Ancien Régime. Le restaurant est-il une invention française ? Où et comment mangeaient les voyageurs, les étrangers à la ville qui ne trouvaient pas refuge chez des hôtes fortunés ? Il y avait bien les rôtisseurs, les traiteurs, les tripiers, mais où s'attabler ? Et les premiers restaurateurs, qui étaient-ils ? Qu'est-ce qu'un service à la carte ? Et quant à l'addition, on l'a nommée le quart d'heure de Rabelais, avant qu'elle ne devienne la douloureuse. Au sommaire de Bouche à Oreille, juste un mot, restaurant. Entretien avec François-Régis Gaudry, auteur de Mémoire du restaurant. Comment le goûtez-vous ? Brève et micro-ondes. Juste un mot, restaurant.
Restaurant, on trouve restaurens dans les qui est en fait un mot latin, hein, qu'on retrouve dans les traités culinaires du Moyen Âge. Et restaurant ensuite, c'est d'abord la chose que l'on mange, puisqu'on parlait de bouillon restaurant et peu à peu le mot bouillon a été écarté, et on s'est contenté uniquement de restaurant. Et après avoir été la chose que l'on mangeait, c'est devenu le lieu où l'on mangeait cette chose.
Dans son livre « Mémoire du restaurant », François-Régis Gaudry rappelle cette phrase de Brillat-Savarin en 1825. « Parmi ceux qui accourent en foule chez le restaurateur, il en est peu qui se doutent qu'il est impossible que celui qui créa le restaurant ne fût pas un homme de génie et un observateur profond. » Mais d'abord, le restaurant est-il une invention française ? François-Régis Gaudry.
Le restaurant est une invention française et je dirais même plus une invention parisienne qui date du milieu du XVIIIe siècle. Ce qui m'intéressait dans, dans ce travail-là, justement, c'est de me plonger dans la généalogie d'une espèce de lieu commun de notre paysage culturel. Tout le monde, ceux qui nous écoutent, sont au moins allés une fois au restaurant, et paradoxalement, on ignore pratiquement tout de cette institution. Et on a toujours eu l'impression que le restaurant a toujours été là et a existé, alors qu'en fait, il correspond vraiment à des codes particuliers, à une certaine modernité, qui sont apparus à la veille de la Révolution française, à Paris, et plus particulièrement au centre de Paris, puisque les premiers établissements que l'on a appelés restaurants sont situés entre la rue Saint-Honoré, étaient situés entre la rue Saint-Honoré et le Palais Royal. Le restaurant, en fait, se distingue de l'auberge, de la taverne, par toute une série de traits distinctifs qui ringardisent en quelque sorte tous les modes d'alimentation qu'on connaissait jusqu'alors.
Parce que l'auberge, la table d'hôte et la taverne avaient très mauvaise réputation.
Voilà.
Par les écrits qu'on en a, les regards anglais ou allemands,
effectivement,
c'est épouvantable.
L'alimentation hors domicile, comme diraient les sociologues aujourd'hui, à l'époque était assez catastrophique, on peut le dire. Effectivement, soit on avait les moyens d'avoir une cuisine à son domicile, c'était en général l'apanage des aristocrates, des gens de distinction, des gens d'une certaine condition, auquel cas on avait souvent un maître-queue ou un officier de bouche à demeure qui faisait la cuisine, il n'était pas tellement question d'aller dîner à l'extérieur dans ce genre d'établissement. Soit on était au contraire très très pauvre, dans le cas extrême, le cas inverse. Et là, on se contente uniquement de certains stands de rue. Louis-Sébastien Mercier parle notamment de la marmite perpétuelle sur le quai des volailles, dans le premier arrondissement actuel de Paris, où on allait manger de la volaille qui bouillait dans une grande marmite, des chapons, en fait, qu'on dévorait comme ça, sur le pouce, sans même être assis. Et entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire entre les aristocrates qui ont une cuisine chez eux et entre ces gens qui mangeaient dans la rue...
La cuisine de rue.
La cuisine de rue, absolument. Il y avait justement ces établissements qui ont existé avant le restaurant et qui étaient l'auberge, la taverne, caractérisés par des tables d'hôtes où allaient les provinciaux qui étaient de passage à Paris, les touristes étrangers et puis les gens de petite condition. J'ai notamment mis la main sur un texte assez intéressant de Joachim Christoph Nemetz qui était le conseiller du prince de Waldeck, un Allemand érudit, qui a écrit au début du XVIIIe siècle, en 1718 exactement, « Séjour de Paris pour les voyageurs de condition ». C'était une initiative assez innovante à l'époque, puisque ça correspond un peu à une espèce de guide du routard avant l'heure, qui était en fait des notes de voyage qu'il publiait à l'attention des gens qui ne connaissaient pas Paris et qui devaient se confronter justement au danger de Paris. Et à travers ces pages, il essaye comme ça de déjouer les chausse-trappes auxquelles on pouvait être confronté quand on avait envie justement de se sustenter. Et il raconte que on avait affaire à toutes les entourloupes possibles et imaginables, des soupes grossières, des viandes mal préparées, des choix en général avec très peu de, des desserts en général avec très peu de choix, un pain blanc qui est insipide, de la bière coupée avec des herbes amères, parfois même du fiel.
Beaucoup de tricheries.
Beaucoup de tricheries, absolument. Beaucoup de tricheries au point même que il raconte que certains plats de lapin, enfin qu'on fait passer pour du lapin, sont en fait du chat. Enfin, là, l'entourloupe est assez connue. Mais au-delà de ça, quand on vous apportait à table une carafe d'eau, c'était bien souvent une eau troupe qui venait de la Seine, et je vous laisse imaginer les dégâts que ça faisait sur les estomacs. Toute une série comme ça d'arnaques qui étaient le plus souvent exercées par des tenanciers souvent un peu douteux, qui profitaient de la naïveté de ces voyageurs qui connaissaient pas tellement Paris finalement, d'abord pour leur soutirer de l'argent, puisque une des nouveautés précisément du restaurant, mais qui n'existait pas à l'époque, c'était qu'on entrait dans une auberge ou une taverne, on s'asseyait sur une maison d'hôte, sur une table d'hôte, pardon, donc on avait affaire à un grand meuble où on connaissait pas son voisin et on était au coude à coude un peu serré. Très souvent, les gens qui étaient aux extrémités, ils avaient pas accès au plat principal qui était déposé au centre de la table. Donc effectivement, ils se faisaient un peu rouler dans la farine. Et très souvent aussi, on mangeait sans savoir le prix qu'on allait payer à la fin. Donc c'était l'occasion pour le tenancier, qui encore une fois profitait de la naïveté de ses convives, de ses clients, de leur imposer un prix à la tête du client à la fin, et puis il y avait intérêt à, pour le coup, intérêt à payer FISA, sous risque de se faire traiter de vilaine manière. Donc il était quand même question de payer assez rapidement. On savait pas tellement ce qu'il y avait dans les plats, d'ailleurs. Et très souvent, on était entouré aussi, soit de femmes de petite vertu, qui en profitaient comme ça, en essayant de vous soutirer un peu d'argent ou vous de piquer en douce votre montre ou votre bourse. Il y avait très souvent des bagarres comme ça qui se déclenchaient. L'atmosphère était quand même assez colorée. C'était une espèce de jungle urbaine assez peu fréquentable. Et c'est vrai que le restaurant, quand il arrive dans les années 1760, marque pour le coup une profonde originalité, une vraie modernité. Et on n'est plus du tout dans ce type d'établissement.
Tous les dimanches après le prêche du soir, la collation vient, composée de quelques laitages, de gaufres, d'échaudés, de merveilles ou d'autres mets du goût des enfants et des femmes. Le vin en est toujours exclu. Et les hommes qui, dans tous les temps, entrent peu dans ce petit gynécée, ne sont jamais de cette collation où Julie manque assez rarement. Le laitage et le sucre sont un des goûts naturels du sexe et comme le symbole de l'innocence et de la douceur qui font son plus aimable ornement. Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse. N'auriez-vous point du nectar cette année en Beaujolais? De bon nectar, bien couvert, bien savoureux, bien fort de sève, de bonne garde, rien de médiocre. En un mot, du Beaujolais qu'on puisse donner hardiment pour du Bourgogne. Voltaire.
À l'époque, enfin au XVIIIe siècle, au moment où l'encyclopédie paraissait, quelle était la perception de la nourriture chez les philosophes?
Il y a effectivement eu, c'est vrai que vous avez tout à fait raison de signaler ce débat philosophique autour de l'alimentation au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, précisément parce que ça a servi de terreau pour l'émergence du restaurant dans les années 1760.
François-Régis Gaudry.
Le restaurant a émergé à une époque où il y avait un débat vif, crucial, sur l'alimentation. Pour schématiser, on a d'un côté une figure comme Voltaire, bouffeur devant l'éternel, amateur de plats aux sauces très alambiquées.
De vin aussi.
De vin, énormément. Gobeur d'huîtres, d'ailleurs, émérite. Ce qui est d'ailleurs assez innovant, parce que en général, le fait de manger des huîtres crues, ça a été une grande mode au XIXe siècle. Ça avait été une mode avec les Romains, ça avait été oublié. Et Voltaire a inauguré comme ça, à la fin du XVIIIe, cette habitude. Alors lui, c'était le vrai bouffeur, et qui mettait même l'art culinaire au rang de l'art tout court, au rang de tous les autres beaux-arts. Et d'un autre côté, vous avez un Rousseau, alors qui pour le coup a vraiment la position inverse, qui est une espèce de la figure du renoncement gastronomique, d'une espèce d'assainissement alimentaire.
Oui, de frugalité aussi, de fraîcheur, de simplicité.
On peut dire un peu que c'est le père de la diététique en quelque sorte.
Le laitage, tous ces plaisirs simples de la campagne au fond.
Voilà, les laitages, le pain bis ou le pain complet. Le fromage, peu de viande, très peu de viande. Pour Rousseau, c'est un non-sens, c'est contre nature de manger de la viande. C'est en ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de végétariens aujourd'hui qui considèrent que Rousseau est un peu leur père spirituel. Et donc on est dans une période où on s'interroge quand même, où les philosophes s'emparent de l'alimentation et où on se dit il serait peut-être temps d'assainir un peu la cuisine. Et dans cette période-là, les diététiciens, les médecins se mêlent de cette affaire-là. Vous êtes dans une époque où beaucoup de traités diététiques, de traités hygiénistes sortent en disant que la condition d'une bonne santé, c'est une bonne digestion. Et on s'interroge justement sur la façon de favoriser une bonne digestion. Et c'est précisément là où ressurgit une vieille recette qui avait déjà cours au Moyen-Âge et dont on a vu beaucoup de traces dans des traités médiévaux de cuisine, qui est la fameuse recette de ce bouillon restaurant. Le restaurant étant là un adjectif, un participe présent, sous-entendu un bouillon qui restaure, et qui restaure les santé chancelantes, les santé fragiles. Et le bouillon restaurant, c'était précisément un bouillon dans lequel on faisait au Moyen-Âge mijoter de la viande, en général de la volaille, avec toute une série de légumes, avec même des raisins de Damas, avec des roses séchées, il y avait toute une série comme ça d'ingrédients que j'ai trouvé très poétiques. Et ce bouillon restaurant avait précisément la vocation à extraire de matières solides, et notamment des légumes, des viandes, tous les sucs, toute la quintessence des aliments qui permettaient d'entretenir une bonne santé. Et c'est vrai que cette recette a ressurgi donc au milieu du XVIIIe siècle, Et des traités ont favorisé la renaissance de cette recette.
Il y avait François Marin, non ?
Absolument. François Marin, qui a signé un traité culinaire très connu, je crois que c'est 1739.
Les dons de Comus.
Les dons de Comus. Il y a une, c'est un livre qui a formidablement marché à l'époque, qui montrait quand même cette envie aussi d'un public éduqué qui s'interrogeait justement sur l'alimentation. Et des jésuites d'ailleurs ont signé une préface de l'édition de 1742, donc quelques années après, qui racontait justement que la vocation des aliments, c'était certes de bien manger, mais c'était aussi d'assurer une bonne digestion. Et c'est précisément dans ce bouquin de François Marin qu'on retrouve la recette du bouillon restaurant, d'ailleurs que je cite dans mon livre, alors que c'est une recette très alambiquée, mais qu'on peut encore s'amuser à faire. Moi, j'ai pas eu ni le temps, ni la curiosité de le faire. Faut dire qu'il y a quand même une liste d'ingrédients à faire peur.
Oui, hein. C'est très compliqué.
Vous avez de la moelle de bœuf, des tranches de rouelle de veau, des tranches de veau, une poule bien saine tuée sur le champ, des zestes de jambon, enfin toute une série d'aliments. Et cette recette est intitulée « Bouillon restaurant », selon les éditions de cet ouvrage, soit bouillon restaurant, soit restaurant, soit quintessence.
On entre, l'on choisit la table que l'on veut. Aussitôt, le garçon vous apporte une feuille de papier encadrée sur laquelle vous trouvez tout ce qui peut flatter votre goût. Les prix sont au bout de chaque article, de manière que vous pouvez être sûr de votre dépense. Que les denrées soient plus ou moins chères, les prix du restaurateur sont toujours les mêmes. Les personnes qui y vont journellement sont des chevaliers de Saint-Louis, des jeunes officiers, des premiers commis de finances, des provinciaux qui viennent à Paris manger leurs biens, des joueurs, des libertins et des filles. Tableau du Nouveau Palais Royal, 1788.
Le restaurant a-t-il donné naissance au restaurateur, François-Régis Goudry ?
Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a quelques petits malins en 1760, qui sont un peu des entrepreneurs de l'époque, qui ont surfé entre guillemets sur ce contexte philosophique, hygiéniste, et qui ont ressorti de façon alors là strictement commerciale, et qui ont utilisé l'argument philosophique, de ressortir le bouillon restaurant et de le commercialiser dans un type d'établissement qui prendra donc le nom de restaurant. Alors, l'hypothèse sur le premier restaurateur, qui est donc ce propriétaire de restaurant. Alors que restaurateur est un mot aujourd'hui qu'on considère un peu comme désuet, mais à l'époque on disait vraiment, d'ailleurs on disait plus qu'aller au restaurant, on commençait par dire aller chez le restaurateur. Vous avez d'ailleurs des propos de Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire, qui parle de Jean-François Vacossin, qui est l'un de ses pionniers des restaurants en 1765-66, et Rousseau parle d'aller chez le restaurateur. Et il y a plusieurs hypothèses sur quel est le premier. Alors, il y a des petites disputes sur quel est le premier qui a ouvert le premier restaurant. A priori, c'est un certain Mathurin Rose de Chantoiseau. Anthony Rollet parle d'un boulanger.
Alors, il y avait boulanger qu'on appelait, on disait boulanger débite des restaurants divins.
Voilà, boulanger débite des restaurants divins, c'était un peu la devise qu'il y avait au fronton de sur sa devanture. Boulanger, c'est une des hypothèses les plus admises. Il aurait ouvert le premier restaurant. Rue des Poulies, qui est une rue qui est l'actuelle rue des Halles, près des Tuileries, entre le Louvre et la rue de Rivoli. Et il a ouvert précisément donc cet établissement où il servait des bouillons restaurants. Et c'est comme ça qu'on a dû assister à une souplesse du service, parce que on avait des problèmes de santé, on y allait un peu comme on allait dans une pharmacie. Les restaurants étaient servis dans des petites tasses avec des soucoupes, un peu comme un café aujourd'hui. Et on arrivait dans ce restaurant et on arrivait un peu à toute heure du jour et pas du jour et de la nuit, mais surtout à toute heure du jour. Ce qui fait que les restaurateurs en question ont dû réfléchir à une façon de tenir au chaud ces différents bouillons tout au long de la journée.
Des sous cloches, non ?
Voilà, c'était sous cloches, et au bain-marie. Enfin, au bain-marie réservé un peu à feu doux, ce qui permettait de maintenir les bouillons au chaud. Ce qui fait que les gens venaient un peu quand ils voulaient. Et on a assisté comme ça à une flexibilisation du service. Alors que dans les tables d'hôtes des auberges et des tavernes, on venait à heure imposée, et il s'agissait pas de louper, il s'agissait pas de manquer l'heure du début, parce que très souvent, sinon on n'avait pas grand-chose à manger, là on pouvait venir un peu quand on voulait. Il y a eu ensuite une nouvelle modernité, et c'est en cela que l'invention du lieu est intéressante, c'est que ça part vraiment de ce bouillon, et qu'ensuite la présence de ce bouillon dans les restaurants a aussi induit la création d'une carte imprimée.
Alors, il y a d'abord eu les prix fixes.
Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, comme il y avait différents choix et qu'on venait à toute heure de la journée, il y a eu une carte imprimée sur laquelle le restaurateur s'est engagé, en face de chaque spécialité, à indiquer un prix fixe. Comme ça, on savait, c'était révolutionnaire pour l'époque, on savait quand on allait commander un restaurant ce qu'on allait payer à l'avance. Chose qui était inimaginable avant. Le prix fixe, et ensuite, très important, individualisation de la table. On tranche radicalement avec la table d'hôte, et apparaissent les tables individuelles, puisqu'on vient à des heures différentes, on ne peut pas manger sur une grande table tous en commun au même moment. Donc on vient, il a existé des tables de 2, des tables de 4, des tables de 6. Et là, pour le coup, c'était à l'époque, je me suis replongé dans des textes, et il y a notamment une correspondance très intéressante de Diderot. Je crois que c'est une lettre de 1767 à Madame Volant, où il s'extasie de la modernité du restaurant. Diderot avait peu l'habitude, avait fréquenté comme ça des tavernes et des auberges. Il était justement profondément dérangé par cette promiscuité, ce côté très bruyant. Et ce qu'il a remarqué justement dans cette révolution de la table individuelle, c'est qu'il dit à Madame de Volant, en disant « Tiens, je suis allé chez le restaurateur, j'ai enfin découvert cette invention, et j'ai enfin pu manger tout en m'abandonnant à mes pensées. »
Rose de Chantoiseau précise en 1777 pour le restaurant Rose et Pantaillé que l'on y sert à toute heure du jour indistinctement, les dames y sont admises et peuvent y faire des repas de commande à prix fixe et modique.
Alors, la clientèle, elle est assez hétéroclite, hein, c'est ce que vous dites, et on y admet même les dames.
On y admet même les dames, alors dans certaines circonstances, puisqu'on y admet les dames. La clientèle, si vous voulez, disons que le restaurant, par cette formule un peu plus huppée, tout le monde n'avait pas forcément les moyens de venir se payer un bouillon pour réparer ses miasmes ou pour réparer ses problèmes de poumons. Donc c'est vrai qu'on a quand même assisté à l'apparition d'une certaine élite urbaine qui venait chez le restaurateur. Et les restaurateurs sont apparus, Palais Royal. Alors Palais Royal, c'était fréquenté à la fois par des filles de joie, par des provinciaux qui avaient peu de fortune mais qui voulaient se payer un peu leur expérience de Paris. Mais il y avait quand même aussi des intellectuels, des entrepreneurs, des bourgeois. Mais c'est vrai qu'on a du coup assisté un peu je vais tenter un néologisme, à une aristocratisation du restaurant par rapport à la taverne qui était un peu considérée comme un bouge. Et les femmes, très important, qui étaient alors là pour le coup parfaitement exclues des auberges et des tavernes, sauf si elles étaient des filles de joie. Sinon, il était très déconseillé pour une femme de mettre les pieds dans une auberge ou une taverne. Là, nouveauté encore du restaurant, nouveauté très sociologique. Jean-François Vacossin, donc un des premiers restaurateurs, comme je l'ai dit, avait prévu dans son établissement du Palais Royal toute une série de cabinets particuliers. Et ce qui est très drôle, c'est que le cabinet particulier au XIXe siècle aura une connotation très libertine, alors que le cabinet particulier à l'origine, quand il a été créé comme vraie innovation architecturale au sein du restaurant par Jean-François Vacossin, c'était un espace privatisé, précisément dédié à la pudeur, c'est-à-dire pour accueillir des femmes qui ne voulaient pas s'exposer au regard indiscret des hommes. Donc Vacossin disait, et d'ailleurs j'ai retrouvé des guides, et notamment un guide qui s'appelait l'Almanach Général, regardez comme c'est compliqué, l'Almanach Général d'Indication, d'Adresse, Personnel et Domicile Fixe de Six Corps, Arts et Métiers. C'était une espèce d'annuaire, une espèce de page jaune avec une dimension méritocratique en plus, qui recensait les marchands, les commerçants, les artisans, les entrepreneurs. Et Jean-François Vacossin était précisément répertorié dans cet almanach. Et Jean-François Vacossin, dans les publicités qu'il payait dans cet almanach, disait « Femmes, vous êtes les bienvenues, je vous accueille, j'ai prévu des établissements ». Il y avait une dimension, il n'était pas forcément, c'était pas forcément un féministe, c'était surtout quelqu'un qui avait dans l'idée d'ajouter à sa clientèle tout un pan de clientèle potentiel en plus.
Quelle est la fonction du cuisinier, si ce n'est de dégager ses sucs de leur viscosité naturelle ou des particules qui les enveloppent par la cuisson, les bains, les extraits, pour les faire passer dans le sang avec moins d'embarras. Si ce n'est d'aider par le mélange de sucres plus doux et plus actifs, selon le besoin, les facultés digestives de l'estomac. François Marin, Les dons de Comus.
Mathurin Rose de Chantoiseau, ou bien boulanger, ou bien Jean-François Vacossin, à qui attribuer la paternité du restaurant ?
Rebecca Lisbon, qui est une historienne d'Oxford, qui a écrit un livre assez remarqué à la fin des années 90, qui s'appelle History of the Restaurant, qui n'a pas été traduit en français. Attribue à ce fameux Mathurin Rose de Chantoiseau la paternité du restaurant. Et raconte que ça aurait été le premier à ouvrir un établissement, une espèce de maison de santé rue Saint-Honoré. Elle le décrit comme un idéaliste un peu fou, qui était assoiffé de reconnaissance, qui a eu l'idée, à la fois, et c'est là où, déontologiquement c'est un peu contestable, mais c'était quand même quelqu'un qui était assez malin, d'un côté il crée un établissement, donc rue Saint-Honoré, qui s'appelait Rose de Chantoiseau, le restaurateur, et de l'autre, de créer ce fameux almanach, qui était ses pages jaunes avant l'heure, ou, sous un autre nom, de surcroît, sachant que l'établissement en question, qui était l'hôtel d'Aligre, qui était l'établissement de la rue de Saint-Honoré, abritait au rez-de-chaussée le restaurant, et au premier étage, la maison d'édition qui éditait les pages jaunes où il recensait son propre restaurant, et où il se considérait comme premier restaurateur. Donc, si vous voulez, il y a un côté à la fois jugé parti, et qui a quand même été un des pionniers du métier.
Mais il n'y avait pas des problèmes de corporation entre les traiteurs, qui avaient le monopole des viandes cuites,
oui.
Les restaurateurs, parce que les traiteurs n'ont pas dû accepter très, très bien l'arrivée des restaurateurs.
Effectivement, il y aurait eu, dans les années 1765-66, juste après l'ouverture précisément du restaurant de boulanger rue des Poulies, un procès qui aurait confronté ce boulanger avec la corporation des traiteurs. La corporation des traiteurs dénonçant le premier restaurateur, un peu pour un motif qu'on appellerait aujourd'hui, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était un peu pour concurrence déloyale. En gros, l'idée, c'était que, après avoir servi ses restaurants, boulanger a eu aussi l'idée de servir des viandes cuites, dont des pieds de mouton sauce blanche, etc. Et là, les traiteurs ont dit attention, avec les charcutiers. Charcutier, étymologiquement, voulant dire artisan de la chair cuite, les traiteurs et les charcutiers avaient le monopole des viandes cuites. Donc ils ont contesté à boulanger le droit de servir des plats de viande cuite. Il y a eu un procès, et là il y a différentes hypothèses. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que d'un côté, il y a les historiens qui vous disent boulanger a gagné son procès, donc à partir du moment où le Parlement de Paris a tranché, boulanger a eu le droit de servir des plats de viande cuite, ce qui aurait été finalement une espèce de cette décision juridique, une espèce d'acte fondateur du restaurant. Et de l'autre, vous avez au contraire des historiens qui vous disent non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est les traiteurs qui ont gagné. Et en général, cette thèse-là, elle a été plutôt utilisée par des historiens d'orientation un peu marxiste, un peu pro-révolutionnaire, qui se sont servis un peu de cette décision juridique pour dire, vous voyez, l'ancien régime c'était corporatif, et ils ont un peu plaidé pour la cause de l'anticorporatisme révolutionnaire. Donc, c'est vrai que Rebecca Lisbon, elle, tranche radicalement en essayant de faire le ménage dans ses bisbilles d'historiens franco, de ses bisbilles franco-françaises, en disant symbolisé un peu ce procès. On imagine mal des juges en robe noire en train de débattre sur le statut du pied de mouton sauce blanche. En fait, tout ça est une histoire un peu française. Ce procès n'a peut-être pas eu autant d'importance que ce que certains historiens ont bien voulu dire.
Oui, alors ça, c'est, disons que ce sont les prémices finalement de la Révolution, parce que il va se passer beaucoup de choses
au moment
de la Révolution et juste après, notamment concernant les restaurateurs.
Oui, c'est vrai que si on ne peut pas dire, on l'a montré puisque les premiers restaurants ça date de 1760, on peut donc pas dire, contrairement à pas mal d'historiens qui ont véhiculé cette thèse pendant plusieurs années, que le restaurant est une invention révolutionnaire. Si c'est pas le cas, la Révolution a quand même été un vecteur très important dans l'essor du restaurant.
Comment la goûtez-vous, Louis-Sébastien Mercier, la crapaudine?
Un sanglier à la crapaudine, s'écrit-on. Oui, je l'ai vu de mes yeux sur le grill. Celui de Saint-Laurent n'était pas d'une plus belle taille. On l'environne d'un brasier ardent, on le larde de foie gras, on le flambe avec des graisses fines, on l'inonde avec des vins les plus savoureux. Il est servi tout entier avec sa hure devant Monseigneur, qui sourit à l'énorme service. On attaque tantôt la hure, tantôt les côtes, et l'on disserte savamment sur la partie la plus fine et la plus délicate. Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris.
Brève et micro-ondes. Mémoire du restaurant de François-Régis Gaudry est paru chez Aubanel. De la cuisine à la gastronomie de Patrick Rambourg, Histoire de la table française aux éditions Audibert. Voltaire à table de Christiane Mervaux aux éditions Des Jonquères. Histoire des cuisiniers en France d'Alain Drouard, CNRS édition. Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier au Mercure de France. À table, la fête gastronomique d'Anthony Rollet, découverte Gallimard. De bouche à oreille par René Alcaïm Bollinger, aujourd'hui, histoire du restaurant Premier Temps, Naissance, avec François-Régis Gaudry, texte lu par Frédéric Cantrel, coordination Anne de Biran, mixage Éric Boisset, réalisation Pascal Rayet.
Maman, j'ai faim.
On mange quand ?
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille, saveur, savoir, savoir-faire. Aujourd'hui, histoire du restaurant deuxième temps, la bouche va-t-elle toujours à Paris ?
On a ici la plaque du général Bonaparte et de Joséphine de Beauharnais, donc là on est fin 18e puisqu'il n'était pas encore empereur, il n'était que général. Donc on retrouvait en compagnie du prince Murat, qui a aussi sa plaque là-bas, en compagnie de Joséphine de Beauharnais bien sûr. Et puis entre les deux ont été glissées une plaque qui est celle de Grimaud de la Reynière, qui correspond aussi je crois fin 18e, 19e. Donc de cette période qui était le célèbre critique gastronomique.
Nous sommes au Palais Royal, dans la salle du Véfour. En examinant les plaques apposées près des banquettes du restaurant, on peut imaginer remonter au XVIIIe siècle, au moment où le Véfour s'appelait le Café de Chartres. L'établissement est mentionné et repéré par Grimaud de la Reynière dans son itinéraire nutritif ou promenade d'un gourmand dans différents quartiers de Paris. Comment évolue cet art de la gueule, de la monarchie à l'empire ? Dans son livre « Mémoire du restaurant », François-Régis Gaudry nous parle d'une véritable schizophrénie alimentaire à la fin du XVIIIe siècle. Un grand écart entre restriction pour les uns, profusion pour les autres. À preuve, ces gravures montrant une file d'attente devant une boulangerie, file dûment encadrée par des soldats à la baïonnette érigée. Par ailleurs, pendant que la guillotine tranchait les têtes, suggère François-Régis Gaudry, les couteaux dans les restaurants tranchaient des pets beefsteaks et des boudins blancs aux truffes. Les restaurants ? Il y a Méo, ancien officier de bouche du duc d'Orléans. Il y a Véry et toutes les fines bouches du Palais Royal, ce qui se presse chez Beauvilliers et ses ragoûts de l'étance de carpe au filet de brochet à la béchamel. Au sommaire de bouche à oreille, juste un mot, chauffe-plat. Reportage au restaurant Le Véfour à Paris avec Christian David, maître d'hôtel. Entretien avec François-Régis Gaudry, auteur de Mémoire du restaurant. Comment la goûtez-vous la tourte aux artichauts ? Brève et micro-ondes. Juste un mot, chauffe-plat.
Le chauffe-plat est encore une tradition dans notre profession, basique en argent avec deux petits brûleurs en dessous à alcool, que nous utilisons tous les jours d'ailleurs, puisque nous effectuons encore, non pas des flambages, puisque c'est un petit peu, ça s'est beaucoup perdu, mais enfin, il arrive que quelques clients nous demandent encore de faire des crêpes Suzette. Donc c'est un flambe, ça fait partie des flambages et nous utilisons régulièrement ces réchauds. Il nous sert plus, disons, à réchauffer des plats qui sont envoyés en cocotte et servis devant le client. Voire à préparer des thés également, des thés de Chine dans la plus pure tradition.
C'est la grande bouche du peuple qui, dans cette ville immense, vrai réservoir de puissance, fait sortir de tous les coffres, de toutes les cachettes, les écus rouillés. Quelque lente que soit la circulation du numéraire, les écus ensevelis depuis un siècle et dont le magique pouvoir met en activité les moulins à vent, les tonneaux de vin, les bouchers et les cuisiniers de tout grade. Poulet Malassis, Paris pendant la Révolution, 1862.
Au Palais Royal, le restaurant Levé Four, avec Christian David, maître d'hôtel. Le menu.
Dans les classiques, la raviole de foie gras, c'est-à-dire une très très délicate pâte à raviole qui est garnie de très fine, qui est garnie de foie gras frit de canard. On poche donc légèrement cette raviole et que l'on sert avec une crème foisonnée, c'est-à-dire une crème émulsionnée qui lui confère ce côté un petit peu mousseux. Et donc qu'on relève un petit peu à la dernière minute, on râpe la truffe fraîche, si vous voulez, sur le dessus, surtout en ce moment puisqu'on est en période de truffe. Donc beaucoup de une entrée très délicate. Malgré le côté foie gras qui semble un petit peu riche, on a vraiment de la légèreté dans cette petite entrée. On retrouve ensuite, soit on reste dans l'esprit truffe, comme on est aussi dans la période en ce moment. Donc on part sur différentes suggestions à la truffe avec le riz de veau piqué, rôti entier à la truffe. Le parmentier de queue de bœuf aux truffes aussi, qui reste un des classiques de Monsieur Martin. C'est-à-dire une queue de bœuf qui a été longuement braisée, qui est ensuite effilochée, que l'on pose sur une purée de pommes de terre aux truffes, que l'on accompagne donc qu'on recouvre de lamelles de truffes et qu'on accompagne d'un jus de truffes également réduit, bien marqué, bien présent. Et on a aussi beaucoup de saveurs, car la queue de bœuf en elle-même est un plat déjà, est un morceau extrêmement, extrêmement goûteux.
Christian David, vous êtes maître d'hôtel au Grand Véfour, au Petit Véfour ou au Véfour? Comment dit-on?
Le mot Grand Véfour, c'est vrai, est resté. Le mot Véfour, pourquoi? C'est l'apparition de ce nom en 1820, précisément, avec l'arrivée d'un monsieur qui s'appelait Jean Véfour, qui était un des cuisiniers de Louis-Philippe. Et qui, à cette époque, après la Révolution, ont dû quitter leur maison pour se retrouvant évidemment sans emploi, ont pris l'initiative de créer et d'installer des grands restaurants. Donc Jean Véfour est arrivé en 1820 et on peut dire qu'il a fait vraiment de ce restaurant peut-être un des plus beaux restaurants de l'époque, un des meilleurs en tout cas. C'est un petit peu comme ça que son nom a perduré et le mot Véfour est resté. Alors effectivement, le mot est devenu Grand Véfour par la suite parce qu'on parle de l'apparition dans les jardins d'un autre homonyme qui s'appelait également Véfour et qui aurait également installé un restaurant. Et de ce fait, pour faire un petit peu le distinguo entre les deux, a pris l'initiative de rajouter le mot Grand au mot Véfour. On pense que l'origine du mot Véfour vient d'ici.
Quand on arrive, on voit évidemment Véfour, mais alors la date de fondation, c'est 1784. Le Véfour ne s'appelait pas comme ça à cette époque.
Non, alors le Véfour, effectivement, date de 1784. Enfin, en tout cas, on parle des premières apparitions. Ça correspond à la fin de la construction de toutes les arcades autour du jardin, de toutes les constructions immobilières à l'initiative de Philippe Égalité. Qui était un descendant donc de monsieur qui était le frère de Louis XIV et donc le duc de Chartres. Et le premier nom de ce café était le café de Chartres. Et le café de Chartres a perduré donc jusqu'à l'arrivée de Jean Véfour en 1820. Et ça a été, je pense aussi, un des premiers restaurants installés au Palais Royal comme le fut Beauvilliers.
On ne comptait jadis au Palais Royal que deux cafés, celui de Foix et le Caveau, et tous deux étaient excellents. S'il en faut croire ceux qui n'ont point cessé de les fréquenter, tous deux soutiennent encore leur ancienne gloire et occupent toujours le premier rang. Après ces deux cafés viennent celui de Valois, celui des étrangers, renommé par l'excellence de son café à l'eau, préparé sans ébullition, ce qui lui conserve tout son arôme, et par la bonté de son punch, tant au vin qu'à l'eau de vie et au rhum. Nous n'avons parlé des cafés, avant les restaurants, qu'afin de nous dégraisser un peu les dents en sortant de chez Monsieur Corcelet. Ces restaurateurs sont aussi multipliés que les limonadiers, et peut-être davantage. On nomme Monsieur Véry, Monsieur Naudet et les frères Provençaux, renommés pour les ragoûts à l'ail et leur excellente brandade de merluche. N'oublions pas non plus l'attrayant pâtissier Carnet, dont l'étalage présente des pièces de petits fours singulièrement tentantes, quand ce ne serait que pour la satisfaction des jeunes demoiselles et des friands écoliers qui liront cet ouvrage. Grimaud de la Reynière.
Louis-Sébastien Mercier avait intitulé un des chapitres de son livre « Tableau de Paris »« La bouche va toujours » François-Régis Gaudry.
La bouche va toujours. Et va d'autant plus que la révolution libère un peu les énergies, les appétits, les envies. Et c'est vrai que le restaurant a connu un véritable essor sous la Révolution française. Y a un phénomène qui a été mis beaucoup en avant par un certain nombre d'historiens, qui était une espèce un peu de thèse officielle, qui a montré que on pourrait expliquer l'essor des restaurants à la Révolution française par le fait que tous les maîtres queues, les maîtres d'hôtel, les cuisiniers qui travaillaient au domicile de gens privilégiés, c'est-à-dire les aristocrates, les gens de haute distinction, qui avaient les moyens d'avoir à l'année à demeure un cuisinier, lorsque ces employeurs-là ont été inquiétés, soit qu'ils ont dû s'exiler à l'étranger, soit qu'ils ont été menacés par la guillotine, et tous les gens qu'ils employaient, leurs cuisiniers, se sont retrouvés un peu au chômage, en fait, mis sur le pavé, au sens propre, puisque un certain nombre d'entre eux, il y en avait quand même beaucoup, sont descendus dans la rue pour rejoindre déjà les quelques restaurateurs qui existaient depuis quelques décennies. Et c'est comme ça notamment qu'au Palais Royal, qui est un lieu d'ailleurs qui sera ensuite rebaptisé Palais Égalité, mais qu'au Palais Royal est apparue toute une série de restaurants qui fleurissaient pour le coup comme un champ au printemps. Hein. Tout ça s'est fait vraiment en quelques années, entre 1789 et 1792-93, vous avez l'apparition d'une quinzaine de restaurants au Palais Royal, c'est considérable.
Il y a quelque chose d'important que vous dites, c'est que le restaurant n'appartient pas au marché, mais au champ des vertus civiques.
Oui, c'est vrai que là, il y a quelque chose d'assez révélateur dans la législation révolutionnaire. Le système qu'on avait aujourd'hui, d'un côté la sphère privée, d'un côté la sphère publique, le mot public était considéré à l'époque en fait comme un lieu public, c'est-à-dire sous-entendu un lieu ouvert au public, et pas du tout un lieu, comme on pourrait dire aujourd'hui, appartenant à l'État. Et dans ces lieux publics, vous aviez soit d'un côté les établissements publics, dans lesquels on rangeait, la réglementation rangeait les théâtres, certains établissements qui faisaient de l'argent, les établissements publics d'un côté, et les bains publics de l'autre. Et curieusement, on s'est rendu compte que le restaurant dans cette réglementation n'appartenait ni à l'une ni à l'autre de ces deux catégories. Ce qui voulait dire que le restaurant était vraiment considéré pour le coup comme un établissement avec une mission civique de père nourricier de la nation finalement. Les révolutionnaires ont voulu faire du restaurant l'ambassade de la démocratisation de la grande cuisine. La cuisine, la grande cuisine, était un phénomène de cour, un phénomène monarchique. Et si on a, on peut pas le renier, si on a aujourd'hui une grande cuisine, c'est grâce à toutes les cours monarchiques qui se sont succédées. Et les révolutionnaires ont voulu se réapproprier ce savoir-faire par le biais de ces cuisiniers qui avaient en héritage aussi tout ce savoir-faire de l'aristocratie et de façon générale de la monarchie. Et le restaurant a été un peu le vecteur de démocratisation de ce savoir-faire. Alors, l'idée est belle, comme ça, sur le papier.
La réalité le
slogan est, voilà, le slogan est joli. La réalité est quand même tout autre.
C'est pendant l'hiver de 1794 que la disette de la viande s'est fait sentir à Paris. On vit affluer à la fois et en même temps dans les boutiques des bouchers, les femmes de ménage, les cuisinières, les domestiques, etc. La livre de bœuf s'éleva tout à coup depuis 18 sols jusqu'à 25 sols. Dès 9h du matin, la halle, jadis ce vaste et riche dépôt de toutes les productions de la nature, se trouvait dégarnie. Bientôt, il se forma de longues files de femmes qui, depuis minuit, bravant l'inclémence de l'air, attendaient patiemment chacune leur tour pour conquérir au péril de leur vie 3 œufs et 1 quarteron de beurre. D'un autre côté, l'on se jetait sur le poisson qui se vendait à l'enchère aux marchands d'ambulantes. Ce poisson était corrompu. La disette du beurre en avait suspendu le débit. la famine lui redonnant de la valeur, il causa de graves maladies. Grimaud de la Reynière.
Et il ne faut pas perdre de vue non plus que la Révolution a quand même été une période de restrictions alimentaires considérables. On a des textes assez pathétiques de Louis-Sébastien Mercier qui relate la grande disette de 94, qui raconte la façon dont s'installait le marché noir dans les grandes villes, la façon dont on avait du mal à ravitailler Paris, dont les gens crevaient de faim, faisaient la queue des heures entières devant une boulangerie ou une boucherie. Alors c'est vrai que par contraste, quand on voit toutes ces fines gueules tailler des bavettes dans tous les sens du mot au Palais Royal, il y a quand même pour le coup une contradiction assez éloquente. Ce qu'il y a d'intéressant, aussi pour en revenir justement à cette volonté des révolutionnaires de s'approprier la gastronomie royale, c'est toute la sémantique et tout le vocabulaire culinaire qui a changé. Il y avait tout un vocabulaire très monarchique, très aristocratique, qui a été effacé, et les recettes, elles, n'ont pas changé. J'ai deux exemples. La sauce maître d'hôtel, qui était un terme que l'on utilisait dans l'Ancien Régime, et qui désignait cette sauce faite de vin, de fines herbes, qui servait en général à accompagner des viandes ou des poissons. Elle a été rebaptisée par tous les restaurateurs révolutionnaires, Méo, à la carte de Méo, par exemple, qui a été un des grands restaurateurs du Palais Royal, la sauce homme de confiance. On est dans quelque chose de plus, vous voyez, de plus démocratique. Il y a aussi les noix de veau à la reine, qui ont été rebaptisées un peu plus tard, les noix de veau à la directrice. Voilà, il y a toute une série de changements comme ça qui s'opèrent. Et on voit d'ailleurs dans la cohorte des restaurateurs qui s'installent au Palais Royal, ceux qui sont les bons élèves et qui accueillent d'ailleurs au passage les grands révolutionnaires. Prenez l'exemple de Méo. Méo a été un des premiers restaurateurs, le restaurateur révolutionnaire par excellence. C'est précisément à sa carte que les appellations des plats, les intitulés de plats ont changé. C'est à sa table que les révolutionnaires, les Danton, les Saint-Just étaient présents aux pires heures de la terreur. C'est précisément aussi à sa table qu'on a fêté l'exécution de Marie-Antoinette le 16 octobre 1793. L'exécution était le 16 octobre et le lendemain, les membres du tribunal révolutionnaire se régalèrent chez Méo d'une béchamel d'aileron de foie gras, d'une poularde fine rôtie, de 12 mauviettes. Les mauviettes, à l'époque, c'était les alouettes, ces petits oiseaux qui étaient un peu comme des merles. Et du champagne, bien sûr, du champagne.
Alors, à propos du champagne, vous racontez qu'on se baignait dans des baignoires de champagne et on vous massait.
Toujours chez le même Méo, pour vous montrer un peu la démesure de ces lieux. Alors après, c'est vrai qu'on a un peu de mal à croire à l'argument du restaurant révolutionnaire, mais c'est vrai que c'est précisément dans ces lieux. Je vous passe les détails d'ailleurs sur les décorations très fastueuses, avec très chargées, pleines de dorures, de moulures, de lambris, de miroirs biseautés, de tables en marbre, et des pièces où on avait, dit-on, l'occasion de se faire masser dans des baignoires remplies de champagne. Je vous laisse imaginer la facture.
Alors Méo, c'était l'ancien officier de bouche du duc d'Orléans.
Oui, c'était l'ancien officier de bouche du duc d'Orléans qui a ouvert son établissement en 1791. D'abord rue des Bons-Enfants, qui était à l'angle avec un passage qui aboutissait à la galerie de Valois, et qui a ensuite déménagé carrément au Palais Royal. Le Palais Royal, en fait, était vraiment, se prêtait pour le coup à ce nouveau type de consommation, parce que des travaux ont eu lieu au Palais Royal en 1781. La création de trois arcades qui sont les arcades que l'on connaît aujourd'hui. La galerie de Montpensier, la galerie du Beaujolais, la galerie de Valois. Et il fallait quand même imaginer j'ai retrouvé des statistiques du début du 19e siècle, 1815 précisément, qui racontaient qu'au Palais Royal, il y avait 20 cafés, 15 restaurants, 18 maisons de jeu. Alors aujourd'hui, le Palais Royal, qui est un peu considéré comme une espèce de havre tranquille, de parenthèse, de quiétude entre, d'un côté, l'avenue de l'Opéra et de l'autre, la rue de Rivoli, avec assez peu de boutiques, faut le dire, à l'époque, c'était la place Saint-Marc de Paris, hein, véritablement. Et le fameux épicentre de la restauration au sens de restaurant révolutionnaire.
De la fenêtre du restaurant Le Véfour, avec Christian David, coup d'œil sur les jardins du Palais Royal.
Alors là, de ce petit salon, on aperçoit une partie des jardins, surtout une partie des colonnes du péristyle qu'on appelle le péristyle de Joinville, qui est le péristyle qui est au dos au théâtre. Et donc une partie basse des jardins avec, entre autres là-bas, le bac à sable des enfants et l'endroit aussi où Colette se promenait et Jean Cocteau, puisqu'on est dans la partie nord du Palais Royal.
Est-ce que vous voulez bien nous décrire cette table ronde? Comment elle est mise?
Alors, donc on se trouve dans ce salon, que nous appelons le Salon Sainte-Beuve, et on a aussi aujourd'hui au déjeuner une table prévue pour 5 personnes. Donc la convivialité aussi, c'est vrai que cette table ronde, il n'y a que dans ce salon où l'on peut le faire, parce que les restaurants sont plus des styles banquettes pour essayer de conserver aussi l'esprit de ce restaurant, du restaurant tel qu'il était avant. Alors là, on retrouve donc l'assiette traditionnelle qui se trouve à peu près à un doigt du bord. Idem pour les couverts avec bien sûr la fourchette à gauche. Renversée, c'est-à-dire pointe vers la table. Pourquoi ? Puisque logiquement, on a des sigles, si vous voulez, qui apparaissent sur le dos de la fourchette. Oui. Un sigle, bon, il n'y en a pas pour nous, hein, mais normalement, c'est le sigle qui doit apparaître et qu'on met cette fourchette à l'envers. Et puis, c'est vrai que de ce côté, il y a un petit côté agressif de la fourchette aussi, qui n'est pas très agréable. Donc, sur la partie droite, le couteau, pareil, on garde ce principe de mettre à peu près un doigt par rapport à la table pour être assez précis. Et puis, l'assiette à pain qui se trouve sur la gauche, à peu près à hauteur de l'assiette, de la grande assiette, avec un petit couteau qui est légèrement décalé sur la partie droite de la petite assiette. Voilà, puis il y aura un jeu de verre aussi à venir. Alors le jeu de verre, il y a beaucoup de mouvements dans la verrerie, puisque depuis quelques années, on est passé au principe de servir le vin dans les grands verres, contrairement à habituellement où on déclinait, si vous voulez, les verres du plus grand en partant par la gauche jusqu'au plus petit. Le plus grand était celui qui servait pour l'eau et le plus petit au verre à vin blanc, verre à vin rouge, etc. Et on a tendance maintenant un petit peu à inverser, voire même à mettre des timbales pour l'eau, ce qui est des jolis timbales qui peuvent être aussi intéressants, et prendre réserver les plus grands verres qui ont des formes plus spécifiques pour le vin rouge.
Lorsque l'Europe en armes se rua tout entière contre la France, tous les chefs de cette multitude n'avaient qu'un seul cri d'attaque. Paris ! Paris ! Tel fut le cri qu'ils poussèrent des bords du Rhin aux rives de la Seine. À Paris, que demandaient-ils tout d'abord ? Le Palais Royal. Un jeune officier russe y entra à cheval. Au Palais Royal, quel était leur premier désir ? Celui de se mettre à table chez les restaurateurs dont ils citaient les noms glorieusement venus jusqu'à eux. Eugène Briffaut, Paris à table, 1846.
Il y a une figure assez emblématique comme ça de cette époque, c'est Antoine Beauvillier.
C'est l'astre, vous dites que c'est un astre.
C'est un astre. Ben, d'abord, je crois que c'est un des seuls noms.
François-Régis Gaudry.
C'est un des noms, peut-être parce qu'il a été utilisé repris par des restaurants actuels, mais c'est un des seuls noms qui parle encore un peu dans les restaurateurs de cette époque. On parle de Méo, mais je parle du grand public. Il y a Véry, effectivement, mais c'est vrai que Beauvillier a laissé aussi cette trace-là, peut-être aussi parce qu'il a été immortalisé dans la physiologie du goût de Brillat-Savarin. Brillat-Savarin prend vraiment Antoine Beauvillier comme l'exemple même du pionnier des restaurants, l'exemple même du restaurateur.
La laitance de carpe.
Voilà, la laitance de carpe. Alors, effectivement, il y servait des plats assez curieux. Il y avait aussi des filets de brochet à la béchamel, des quenelles de lapro aux artichauts à la barigoule, hein, cette fameuse recette provençale qui existait déjà à l'époque. Des gaufres aux pistaches, des tourtes à la frangipane, hein, qui devait être l'ancêtre un peu de notre galette des rois.
Et oui, Beauvillier, c'était quand même quelqu'un qui a écrit aussi.
Oui.
Voilà, c'est, je crois que c'est aussi pour ça qu'il est connu.
Bien sûr,
hein.
il a effectivement écrit un traité culinaire qui a un peu gravé dans le marbre son savoir-faire et qui a fait qu'il a été plus qu'un restaurateur, il a été un théoricien de la gastronomie, tout à fait. C'était au départ l'officier de bouche du comte de Provence. Et il a été remarqué assez tôt pour son talent. Il a d'abord ouvert la taverne anglaise, qu'on a aussi appelée la Grande Taverne de Londres en 1782, rue de Richelieu. Et ce n'est qu'en 1788, avec un grand succès, qu'il s'est installé à son tour au Palais Royal, justement. 1788, juste avant la Révolution, donc c'était un des précurseurs. Et il avait même deux restaurants, puisqu'il en avait un Galerie de Valois et un autre Galerie de Montpensier. Alors, salle en bois d'acajou, papier chinois sur les murs, c'était assez fastueux. Et surtout, la personnalité de Beauvilliers a expliqué aussi le succès de son restaurant, et Brillat-Savarin s'attarde un peu sur cette personnalité exceptionnelle. Brillat-Savarin lui attribuait une mémoire absolument prodigieuse. Il racontait que Beauvilliers était capable de reconnaître des clients qui n'étaient pas venus pendant 20 ans. Bon, alors où est la légende, où est le mythe et où est la réalité ? Toujours est-il qu'il reconnaîtrait, il aurait reconnu comme ça des gens qui seraient venus avec 20 ans d'écart, et ils auraient été appelés par Beauvilliers par leur prénom. Il parlait aussi toutes les langues, puisque, encore une fois, le Palais Royal était un lieu très cosmopolite. Il avait appris comme ça à s'adresser à la fois en allemand, en italien, en espagnol, en anglais. Et il était assez brillant. Il savait, il se trimbalait comme ça avec une espèce de sabre à son côté. Il réservait les meilleurs plats pour ses clients. Il savait leur dire, sur la carte, choisissez plutôt telle spécialité, elle est plus fraîche que celle-là. Il avait cette sincérité-là. Il avait vraiment le sens de la communication. Et d'ailleurs, Antoine Beauvilliers faisait quelque chose d'assez novateur pour l'époque, qui a quand même été inauguré par les frères Véry. C'était un peu du marketing avant l'heure. C'était de prendre les adresses de leurs clients les plus proches et de leur envoyer en pli cacheté les menus pour les attirer.
L'ancien café de Chartres, après bien des fortunes diverses, est maintenant un des restaurants les plus achalandés de Paris. Monsieur Véfour a ramené la foule. Nulle part, on y apprête mieux un sauté, une fricassée de poulet à la maringot, une mayonnaise de volaille. Les salons sont encombrés dès 5 heures du soir d'une foule de dîneurs. Grimaud de la Reynière.
Aujourd'hui, le Grand Véfour, il a le mérite d'avoir un patrimoine gigantesque, tant dans ses livres d'or, dans sa décoration plus ou moins d'origine, même si elle a été retapée au fil des ans, que dans son mérite gastronomique, parce que c'est vrai que c'est un des restaurants qui cumule quand même 3 macarons Michelin. Alors que c'était à l'époque, ça commençait par être une cabane où on vendait des glaces et des boissons. Et ensuite, c'est devenu effectivement le Café de Chartres en 1782. Alors les chalands y accourent pour consulter les annonces de spectacles, les gens, les hommes d'affaires viennent jouer aux dames et aux échecs. Et puis on voit apparaître Murat, Grimaud de la Reynière, qui est aussi un habitué, Brillat-Savarin. Il y a d'ailleurs une anecdote assez drôle. C'est qu'en 1814, un officier prussien aurait demandé à boire du café, mais il aurait demandé à boire du café dans une tasse où un Français n'aurait jamais bu. Et il paraît que le garçon lui a apporté un pot de chambre.
Comment la goûtez-vous, la tourte aux artichauts au dessert ?
C'est un dessert préparé à base de légumes. C'est vrai que c'est assez rare, ce travail de légumes à ce niveau-là. Et on a ici un fond d'artichaut qui est poêlé, qui est pris dans une crème brûlée caramélisée sur un léger biscuit, et que l'on accompagne de petits légumes confits, un petit peu de carottes confites, céleri, fenouil confit, et un sorbet au lait d'amande. Un sorbet qui va faire le lien un petit peu entre tous ces légumes. On retrouve justement cette étonnante association de l'amande et l'artichaut. C'est un petit peu l'intérêt de ces desserts. Alors ça peut surprendre, hein, en général les gens qui aiment adorent, et puis y en a où c'est un petit peu plus difficile à apprécier. Ce dessert s'appelle donc la tourte aux artichauts et légumes confits, sorbet aux amandes amères.
Brève et micro-ondes. Mémoire du restaurant François-Régis Gaudry aux éditions Aubanel. Paris à table d'Eugène Briffaut, Le Petit Mercure. Le mangeur du 19e siècle de Jean-Paul Aron aux éditions Payot. Écrit gastronomique de Grimaud de la Reynière en 10-18. De bouche à oreille par René Elgaïm-Bollinger. Aujourd'hui, histoire du restaurant, deuxième temps. La bouche va-t-elle toujours à Paris ? Avec Christian David, François-Régis Gaudry, texte lu par Frédéric Cantrel, coordination Anne de Biran, mixage Éric Boisset, réalisation Pascal Rayet.
Ces deux épisodes de l'histoire des restaurants, dans De bouche à oreille, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 4 et 11 mars 2007. À suivre.